À voix nue. Cette semaine, Simone Douek s'entretient avec Donatien Laurent. Cinquième rencontre. La Guerz de Skolan, le répertoire du légendaire. Dans le temps et dans l'espace, Donatien Laurent, nous avons suivi vos recherches, vos enquêtes, vos découvertes heureuses. Tout cela dans le domaine de l'ethnologie, et plus exactement d'un aspect de l'ethnologie, qui est celui de la littérature orale bretonne, dont vous avez renoué les liens avec l'histoire. Mais il existe un domaine différent de l'histoire, encore qu'il puisse s'y apparenter aussi par certains côtés, un domaine donc qui est celui du légendaire, de l'imaginaire, et là nous bouclons une boucle d'une certaine manière avec le premier jour de nos rencontres, un domaine de l'irrationnel, de l'apparition de la mort. Un récit qui s'appelle « La Guerz de Skolan » vous a mené à explorer d'autres profondeurs.
Oui, alors « La Guerz de Skolan », effectivement, c'est un texte dont tout l'intérêt vient du fait que, là on échappe à la Bretagne, mais on reste dans le domaine celtique, il existe dans des manuscrits de poésie galloise très ancienne, le Pays de Galles a commencé à transcrire ses poèmes depuis le XIIe-XIIIe siècle, et on a un grand livre qui s'appelle le livre noir de Carmarthen, qui effectivement donne les poèmes les plus anciens notés au XIIe-XIIIe siècle, mais dont les travaux scientifiques actuels montrent qu'ils ont été transmis oralement à partir d'une composition qu'on peut faire remonter au 8e siècle éventuellement. Et c'est là qu'on a tous les poèmes concernant Merlin, Merlin en gallois, qui donne un petit peu une couche antérieure au Merlin français, au Merlin en langue française, ou en langue allemande, ou en langue anglaise, du Moyen-Âge. Mais on est là dans une strate plus ancienne, qui est la première strate des récits concernant Merlin, qui vont être ensuite repris, développés et aménagés par les Français, les Anglais, les Allemands. Et ce manuscrit, le livre noir de Carmarthen, est le témoignage le plus ancien qu'on en ait gardé.
Qui est donc au Pays de Galles.
Au Pays de Galles, donc. Et dans ce recueil du XIIe-XIIIe, on a un poème qui s'appelle, un poème très court, attribué à Merlin. Il est dans ce livre noir de Carmarthen, là, s'appelle en gallois « Llyfr Merlin », c'est-à-dire « Le livre de Merlin ». Et on a donnant un poème assez court, en tercet. Alors je rappelle ça parce que aujourd'hui, les versions de Skolan qu'on recueille sont en tercet, des vers courts, c'est des vers de 9 syllabes. Et donc on a un poème qui est qu'on a compris lorsqu'on s'y est intéressé au XIXe siècle, on a retrouvé ce vieux livre, et l'un des poèmes de ce recueil s'appelle donc Skolan, c'est-à-dire Skolan. C'est exactement le même mot, Skolan, et le récit est absolument le même, c'est-à-dire c'est un dialogue entre deux personnages. Ça commence par « Noir ton cheval, noir ta chape, noir ta tête, noir toi-même, es-tu Skolan ?» Et le second personnage, Skolan, répond « Oui, je suis Skolan, mi Skolan Skolhaik, skavenepulch Skolik, je suis Skolan le clair, à l'esprit léger, skavenepulch Skolik, sauvage. » Malheur à celui qui n'écoute pas le Seigneur, etc. Donc on a bien un dialogue entre Skolan et un autre personnage qui l'interroge et qui va le confesser, et finalement lui pardonner à la fin. Et on a interprété, alors les premiers commentateurs au XIXe siècle ont dit que c'est un dialogue entre Merlin et Saint Colomban. On a pris Scolan pour le confesseur et on a fait Saint Colomban. Et c'est là où la tradition, alors, donc les Gallois qui n'avaient que leur texte médiéval, se sont interrogés pour savoir Scolan, est-ce que c'est le confesseur? Dans ce cas-là, ce serait Saint Colomban. Ou bien est-ce que c'est au contraire celui qui se confesse? Et dans ce cas-là, ce serait l'auteur des crimes. Et c'est là où la tradition bretonne, elle qui n'a pas changé, elle dit, y a pas de... c'est évidemment celui qui se confesse.
Oui.
C'est là où la tradition orale apporte
encore une fois,
une dimension essentielle à l'écrit.
Alors, qu'est-ce qu'elle raconte, Donatien Laurent, cette Gwerth de Scolan?
Alors, la Gwerth de Scolan, justement, raconte le retour sur Terre d'une âme errante, un personnage qui apparaît tout noir sur un cheval noir, monté sur un cheval noir, et qui arrive à travers les murs et les fenêtres bien fermées chez la mère de ce personnage qui a perdu son fils Colan, qui l'a enterré depuis déjà quelques années, et tout d'un coup le voilà qui arrive chez elle en pleine nuit, et elle est complètement surprise et elle le voit sur son cheval tout noir, et elle lui demande d'où viens-tu, qu'est-ce que tu fais, et il raconte qu'il vient du purgatoire, dans les versions les plus récentes, du purgatoire ou de l'enfer, et qu'il a fait des crimes épouvantables. Donc la mère le sait bien d'ailleurs, il a tué son père, il a violé ses sœurs, il a tué ses sœurs et les enfants innocents, etc. Et il a fait son purgatoire, et Dieu lui a dit, bon, si tu obtiens le pardon de ta mère, sa mère l'a maudit lorsqu'il est mort, si tu obtiens le pardon de ta mère, tu pourras accéder au paradis, mais autrement, c'est l'enfer. Donc il revient en somme marchander auprès de sa mère le pardon de ses péchés, parce que sans ça, bien, il n'a que l'enfer comme avenir, et voilà. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, voilà, en somme, la version. Et s'il est noir, c'est parce qu'il revient du purgatoire, dans l'enfer, etc. Et le problème posé par ce chant, et la ville marquée, c'est la ville marquée qui s'en aperçoit tout de suite, il s'aperçoit que dans un manuscrit gallois qu'on éditait à la fin du 19e siècle, lorsque la ville marquée s'est intéressée à tout ça, dans la seconde moitié du 19e siècle, on avait trouvé le livre noir de Carmarthen, Livre de Carmarthen, dans lequel il y a des poèmes attribués à Merlin, donc le Merlin gallois, et parmi lesquels un s'appelle Scolan, c'est-à-dire ce nom de Scolan qui est celui que porte notre héros, et qui est un nom toujours porté actuellement. La ville marquée donc retrouve ce poème et se dit. Alors, en 1839, il n'avait pas trouvé le poème gallois, donc il publie son poème de Scolan en disant comment les Bretons mettent en scène la mort d'un pêcheur, etc. Bon. Et puis, 1845, seconde édition, il a trouvé le manuscrit gallois et il dit, mais enfin, il est évident que c'est la même chose. Et effectivement, le poème gallois, comme le poème breton, dit « Noir ton cheval, noir ta tête, noir ton vêtement, es-tu Scolan ?» interroge le confesseur, et Scolan dit « Je suis Scolan le fou, à l'esprit léger et égaré, malheur à celui qui offense le Seigneur. » Dans le poème gallois, il s'accuse d'avoir brûlé une église, ou Losky Gloid, ou Schadbir School. Il a brûlé une église, il a tué le bétail du monastère, Et il dit que sa pénitence est très lourde, qu'il est dans les... Il est réduit à se promener dans les arbres, etc. On a bien le portrait du Merlin sauvage.
De l'homme sauvage, oui.
De l'homme sauvage, de la poésie médiévale en français, sous une forme très archaïque.
Mais alors vous, Donatien Laurent, quand on vous a chanté cette Gwerth, est-ce que vous avez découvert quelque chose de plus? Enfin, qui vous l'a chanté? Est-ce que ça vous a révélé quelque chose?
Alors, c'est une personne que je connaissais, mais que je n'avais pas interrogée parce qu'elle était très âgée, elle avait un répertoire extraordinaire, elle ne parlait pas un mot de français, mais elle était plutôt dans les chants, on l'interrogeait sur les chants à danser, les chants drôles, les grillards, etc., beaucoup plus légers que celui qui m'apportait là, et donc je me rappelle être un jour allé avec d'ailleurs mon maître Jean-Michel Guilcher, qui voulait l'interroger lui sur d'autres choses. J'ai profité de sa visite à Catherine Maltraite, qu'on appelait Catherine Guerne, pour me dire, tiens, après tout, est-ce qu'elle sait, elle est exactement de Pouillé, c'est-à-dire un endroit où on a, au 19e, où la ville marquée, vers 1840, avait recueilli des belles versions à Plouillé. Donc, après tout, peut-être qu'elle en connaît. Donc, quand ça a été mon tour de l'interroger, Catherine Guerne, je lui ai dit, écoutez, tout ça en breton, puisque c'était sa seule langue, notre seule langue d'échange, si... La guerre de Scollon lui disait quelque chose, l'histoire d'un personnage tout en noir qui vient du purgatoire sur son cheval. Ah, Skulvanik. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'elles étaient deux. Elles étaient deux chanteuses. Il y avait Catherine Guerne et puis une amie du même âge avec qui elle faisait, en général, elle chantait à deux, etc. Et donc, l'autre qui avait l'avantage, entre guillemets, de parler le français, en général, s'interposait pour dire, donc, j'interroge Catherine en breton, et tout de suite, l'autre me dit, non, elle ne sait pas ça, elle ne sait pas ça. Et Catherine commence à ce moment-là, « Da chat kas du, de zabire wouté de dazé, da ziwaldi me babigwali. » Et du ivar du coude, etc. Voilà, là j'ai commencé à enfin j'entendais du ivar, ton cheval est noir. Donc
ça n'existait pas dans les autres versions.
Aucune, on avait bien souligné au 19e, que l'histoire du cheval noir s'est empruntée directement au livre noir de Carmarthen, mais aucune des versions recueillies à notre époque ne n'avait ça. C'est la ville marquée qui l'avait soigneusement adapté du poème gallois pour montrer la parenté. Et cette personne, qui ne savait ni lire ni écrire, me donne directement une version dans laquelle...
Qui est écrite, justement.
Scollon est tout noir sur son cheval noir. Alors j'étais complètement sidéré. D'autant plus que c'était intéressant que l'autre, que son ami, tout de suite m'a arrêté. Ah non, elle ne connaît pas ça. Et puis pendant ce temps-là, Catherine commence à chanter... Elle le connaissait donc, mais l'autre qui disait connaître tout le répertoire de Catherine, un répertoire de chants à danser, par contre, ne s'était pas du tout aventuré dans ce répertoire plus mystérieux, plus personnel, si vous voulez, qu'on n'a pas l'occasion de chanter comme ça. On le chante dans la famille éventuellement, mais donc ça lui avait complètement échappé, outre que, de toute façon, une histoire comme ça, un mort qui revient sur Terre, sa copine pensait que non, c'est pas des choses à raconter maintenant, c'est pas vrai, etc. Donc ça m'a d'autant plus intéressé justement que là j'avais une personne, Catherine Maltraite, Catherine Guerne, qui me chantait ce poème avec ces vers-là, et elle le tenait, me disait-elle, de sa grand-mère, je crois, ou de sa mère, enfin, peu importe, la personne de sa famille de qui elle avait appris, était complètement antérieure au témoignage écrit qu'on avait dans les collectes du 19e. Mm. Il ne pouvait pas y avoir la moindre influence d'un texte écrit, d'autant plus qu'effectivement, aucun texte écrit ne donnait ces versions-là.
Et Don Asselin Laurent, est-ce que vos informateurs ont fait des commentaires, par exemple, sur cette Gwertz-là, sur cette histoire de Scolard, et sur cette histoire donc du mort qui vient chez les vivants?
Oui, alors ça, je me rappelle que ça m'a justement assez frappé, si vous voulez, frappé parce que aussi c'est pas des choses qu'on s'échange facilement comme ça. Ça montre une sorte d'intimité entre le chanteur et moi qui arrive là pour leur demander ce qu'ils savent. Je me rappelle une personne à près de Carré qui, ayant chanté toute sa guerre, et après elle me dit, mais enfin c'est quand même extraordinaire, puisque c'est vrai, donc quoi que ce soit qu'on fasse comme crime épouvantable, si Dieu pardonne, eh bien on peut aller au paradis. Ben je dis, écoutez, c'est la leçon de la guerre, effectivement, mais elle disait, moi j'ai pas fait tout ça, donc j'ai des chances peut-être d'être du bon côté au moment de quand je ferai le passage dans l'au-delà. Oui, c'est donc des textes qui, encore jusqu'à maintenant, jusqu'à
nous, une force morale,
conservent. Oui, on n'est pas du tout dans l'extérieur, comme peuvent l'être justement les gens qui ont ça sur un livre ou tout ça, ou bien même qui entendent tout ça, donnent éventuellement leur accord, mais se disent oui, enfin, tu peux toujours raconter ce que tu veux. Moi, je ne crois pas que ce soit vrai que des gens viennent de l'autre monde. C'est certain que dans la tradition bretonne, même dans des couches sociales assez élevées, ce passage entre l'autre monde et nous, entre les personnages venant de l'autre monde et soi-même,
c'est concevable.
C'est concevable.
Quelqu'un venant de...
Oui, et alors c'est ce qu'Anatole de Bras a, quand il a fait son grand...
Les jambes de la mort.
Mais j'avoue que moi qui ai entendu ces gens me dire tout ça, je suis assez agacé, c'est difficile de dire ça, parce qu'il fallait bien aussi utiliser pour Anatole Braz un langage qui soit perceptible par le commun des mortels. Si vous voulez. Mais moi qui ai entendu ces gens, ça me heurte un petit peu de sentir l'espèce de touche poétique et un peu artificielle que donne Anatole Braz. Alors qu'on est là sur des témoignages que les gens vous donnent parce qu'ils voient que vous n'allez pas vous fiche d'eux, que, bon, même si vous ne les croyez pas, vous les croirez. Enfin. Donc, c'est vrai, c'est à un niveau assez étonnant. Et j'ai rencontré, j'ai effectivement eu des témoignages de gens qui avaient passer des doctorats ou des grands scientifiques, etc., qui éventuellement, humblement, reconnaissaient que... Bon, ils ne mettaient pas en doute ce que leurs grands-parents leur avaient dit. Quand le grand-père marin, par exemple, disait « Ben moi, je sais qu'un tel va mourir, par exemple. Bon, » ben, il le disait avant, et la personne mourait, effectivement. Ou bien il disait « Tiens, j'ai eu un intersigne. »
Voilà, toutes ces histoires des intersignes.
C'est ça, j'ai eu un intersigne quand j'étais en Amérique ou un truc comme ça, et effectivement, on voit que c'est la même date, c'est à cette date-là que... Donc, c'est effectivement assez... Quand on peut avoir justement le témoignage de quelqu'un qui a vécu ça et qui vous en rend compte, moi, jamais arrivé, donc... Moi, je suis un petit peu Ça ne m'est jamais arrivé, mais je fais confiance à des gens que j'ai et qui sont dans une situation telle qu'ils ne sont pas en train de raconter des histoires. Et alors, je me raconte, je vais finir par là, je me rappelle justement à Roster, deux sœurs dans un, qui tenaient un café bistrot, qui faisaient en même temps vente de légumes, de tout ça, bon. Et c'était ce bistrot était au bas d'une espèce de falaise assez grande, et en haut de la falaise, il y avait une chapelle, une vieille chapelle. Et donc, elles étaient là. Et bon, je les interroge sur l'huile Ravalec, c'était sa bonne affaire, et elle me donne une version admirable de l'huile Ravalec qu'elle tenait directement de leur grand-père. Ce grand-père était quelqu'un de très pieux, me disait-elle, bon, etc. Il faut vous dire aussi que lorsque j'ai commencé à les interroger là-dessus, elles ont fermé à clé la porte de l'espèce de débit de boisson pour justement que personne ne vienne les déranger. Et elles m'ont raconté, bon, donc, l'histoire que je vais vous raconter concernant leur grand-père. Et elles me racontent à ce moment-là comment leur grand-père a servi la messe à un prêtre mort, avec toute une assemblée de gens dans la chapelle, c'était la chapelle qui était au-dessus, justement. Donc elles me disent que leur grand-père, donc, qui a vécu chez eux toute la fin de sa vie, en toute intelligence, etc., mémoire et tout ça, leur a, au moment où il a senti que c'était la fin pour lui, il avait 95 ou 96 ans, je ne sais pas, leur a dit, je vais vous dire quelque chose que je ne vous ai jamais dit, mais il faut que je vous le dise avant de partir. Toute sa vie, il avait gardé les moutons dans la lande qui était au-dessus de cette falaise-là.
Mais à côté de la chapelle,
là où était autour la chapelle, justement. Il était là avec ses moutons et il avait une génisse. Et la génisse, quand il a ramené ses moutons le soir pour les rentrer justement en rentrant chez lui, à la ferme, la génisse manquait. Donc il a ramené ses moutons à l'abri et il est reparti chercher la génisse. Et la nuit tombait et pas de génisse. Et à ce moment-là, il voit arriver quelqu'un et il reconnaît le prêtre de l'endroit, un prêtre qu'il a bien connu, mais qui était mort. Et qui lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Et alors, il lui dit, j'ai perdu ma génisse, et il faut absolument que je la trouve, je ne peux pas la perdre comme ça. Et le prêtre lui dit, écoute, on va la retrouver, mais il faut que tu viennes me servir la messe. Il dit au prêtre, mais je ne peux pas servir la messe, je ne sais pas le latin, enfin bon. Et le prêtre lui dit, ça ne fait rien, Tu vas pouvoir la servir, tu es un homme juste, et donc tu vas pouvoir la servir. Et donc il rentre avec lui dans la chapelle et il se trouve confronté à toute la chapelle pleine de monde. Et quand il regarde les mondes, il reconnaît tous les gens qu'il avait connus mais qui étaient tous morts. Et puis, à la fin de la messe, tout disparaît. Et il voit sa génisse à la porte de la chapelle, justement, l'attendant. J'essaie d'être aussi près du témoignage que m'ont donné ces filles, encore tout ému par l'affaire, et ne pouvant pas mettre en doute cette affaire, parce que c'était le moment pour le grand-père de passer de l'autre côté. Il se rendait compte de ça, et il avait voulu, alors qu'il ne l'avait jamais fait avant, leur raconter ça, pas du tout pour se mettre en avant, mais au contraire, pour délivrer un message qui était vrai. Et c'est certain que ça a une densité, une vérité. Alors évidemment, on va me dire, ça n'existe pas, c'est pas possible, etc. Bon, les esprits, effectivement, logiques, diront, mais c'est pas possible, peut-être c'est pas possible, mais en tout cas, moi je ne peux pas, moi qui ça n'est jamais arrivé, je ne peux pas imaginer que ces deux sœurs, mais se soit dit, tiens, voilà un garçon, on va lui raconter une histoire, il va tomber dedans à pieds joints, bon. et pas plus, je sais bien que c'est pas vrai, et je sais bien qu'elle me disait, mais notre grand-père, à ce moment-là, à la fin de sa vie, n'allait quand même pas nous raconter une histoire qui n'était pas vraie. Enfin, donc, on saisit là, enfin, moi j'ai saisi en tout cas une chose qui m'a paru extrêmement importante, et qui font comprendre aussi, je reviens à Scolan, pourquoi une affaire comme ça, si importante pour les gens, puisque c'est la vie dans l'au-delà, enfin le passage de l'autre côté, et le pardon de Dieu pour tout ce qu'ils ont fait, quelle que soit la gravité des
faits,
des péchés,
des forfaits,
ou des fautes, comment justement un texte comme ça peut rester vivant. Donc, donner accès à quelque chose qui est resté... un peu sous cloche, en tout cas pas appréciable par tout le monde, pas à la disposition, enfin c'est à la disposition de tout le monde, mais il faut encore
aller chercher,
aller le chercher et montrer qu'on est digne de l'avoir et qu'on est digne parce que on est prêt à croire, qu'on ne dit pas oui tiens tu peux toujours me raconter ton histoire, je sais bien que c'est faux. Non, si modestement vous dites, écoutez, moi ça ne m'est pas arrivé, mais je veux bien croire, il y a assez de gens qui ont témoigné que ces choses-là leur sont arrivées pour que je mette ça en doute, à ce moment-là, ils se rendent compte qu'ils ont quelqu'un qui accordera confiance à leur parole, et c'est ça qui est important pour eux. Et donc effectivement, c'est derrière la porte fermée, c'est sous cloche, mais c'est pas dans un livre, c'est accessible directement, si vous avez avec la personne, si vous lui montrez que vous ne vous moquerez pas d'elle. Bon, tout ce que j'ai voulu témoigner, c'est qu'effectivement, on peut être extrêmement exigeant sur le plan de la rigueur scientifique et attester que des choses comme ça, dans certaines populations, qui ne sont plus les nôtres aujourd'hui, bon, et c'est parce que ce ne sont plus les nôtres aujourd'hui, que je crois que ça ne se transmettra plus. Ça va se mettre par écrit, ça peut se raconter, mais ça n'arrivera plus, donc les gens ne pourront plus en témoigner avec cet accent de vérité qu'ils avaient quand ils m'ont parlé.
Merci Donatien Laurent. C'était À Voix Nue. Simone Douek s'entretenait avec Donatien Laurent. Prise de son, Chantal Nouvelot. Coordination, Claire Poinsignon. Réalisation, Gilles Davidas. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Culture. Vous pouvez aussi la podcaster.